Bonsoir à tous. Nous allons voir l'histoire ce soir d'un homme, plutôt même d'un jeune homme. Je ne sais pas quel âge exactement il a, le récit nous ne le dit pas. Mais il avait la particularité de suivre de loin. Il était un pas dedans, un pas dehors. Et je vous propose de lire cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 20. Et c'est au verset 7 que nous allons lire. Paul vient d'arriver dans une contrée qui s'appelle Troas. Il arrive un dimanche. Et ce dimanche-là, ils vont se retrouver dans l'église. Et là, le récit nous présente l'histoire de ce jeune homme qui va vivre une histoire bien particulière. Verset 7, je lis donc « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, vous avez vu ce petit mot ? Comme quoi ça fait suite à ce qui précède. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien, entraîné par le sommeil. Et il tomba du troisième étage et fut relevé mort. » C'est un médecin qui écrit ça, je tiens à le préciser quand même, parce que il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu de mort. C'est un médecin qui dit qu'il était mort. Je pense qu'on peut se fier à la parole d'un médecin. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, Paul, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Ça, c'est une histoire très particulière. Quand on y réfléchit un petit peu. J'ai été, dans un premier temps, quand mes yeux se sont arrêtés sur cette histoire, mes yeux ont été très surpris, on va y venir tout à l'heure, de la réaction de Paul. C'est surprenant. Quand on le regarde, il y a de quoi réfléchir. Donc, avant d'en arriver là, j'aimerais parler de ce jeune homme. Qui est-il, ce jeune homme ? Son nom de famille veut dire « chance ». Fortuné, au sens d'avoir de la chance, c'est la même chose. Et c'est quelqu'un qui est là, dans la chambre haute, avec tous les autres. Et il est à un endroit instable. Il est assis sur le rebord de la fenêtre. Alors pourquoi il se retrouve là ? On peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer déjà que dans la salle, ils étaient bien remplis. La salle était peut-être, je ne sais pas quelle taille elle faisait, mais on peut fortement imaginer qu'il n'y avait plus de place et qu'il s'est retrouvé ainsi sur le rebord de la fenêtre. D'ailleurs, le verset qui est juste avant nous parle des lampes. Alors de ces lampes, c'est intéressant tout ce qu'on peut dire sur ces lampes. Parce qu'on peut se dire, voilà, Eutychus était dans un lieu, une église idéale, on va dire, avec des chrétiens fervents. C'était le soir. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité comme ici. Et quand ils se réunissaient, chacun amenait sa lampe. Donc s'il y avait beaucoup de lampes, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est simple. Parce que chacun amenait sa lampe. Chacun amenait sa lampe. Et Luc précise bien, qui a le souci du détail, il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute. Imaginons, c'est pas des ampoules, on est tous d'accord, c'est des lampes à huile. Et ces lampes à huile, je ne sais pas comment ils les ont disposées dans la pièce, mais évidemment, ça n'éclaire pas comme les néons. Là. Il y avait beau avoir beaucoup de lampes, au niveau de l'éclairage, ça ne devait pas être énorme. Mais ceci dit, on peut facilement imaginer une lumière un peu tamisée. Quand on commence à mettre beaucoup de bougies, il y a quand même une certaine luminosité qui se fait, même si ça n'éclaire pas beaucoup. Ces lampes, en plus, apportaient de la chaleur à la pièce, en plus de la chaleur humaine. Et comme c'est de l'huile qui brûle, il devait probablement, je ne sais pas quel type d'odeur, est-ce que c'était de l'huile parfumée, on n'en sait rien, mais il y avait aussi une certaine odeur dans la pièce. Et de tout ça, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir avec ces lampes ? Eh bien, on peut y voir deux choses. On peut se dire d'un côté, voilà, l'Église est idéale, au sens que les lampes représentent les chrétiens qui sont là. La Bible nous parle, nous compare nous-mêmes à des lampes et nous demande de briller. Il faut que nous brillions, il faut que nos lumières brillent, nos lampes soient allumées pour l'extérieur, pour que les autres voient. Et là, on est dans une Église où les lampes sont allumées. Une Église où ils n'ont pas peur d'ailleurs des persécutions parce qu'ils allument les lumières. Donc l'Église est saine, l'Église c'est une bonne Église. En plus il y a un pasteur qui est pas mal, il s'appelle Paul. Probablement qu'il devait bien prêcher, j'imagine. J'imagine que Paul devient bien prêcher. Donc on a ici l'histoire d'un jeune qui fréquente une Église où tout va bien. Une Église où finalement, dans l'Église elle-même, il y a des chrétiens fervents, il y a des gens qui se rassemblent autour du pasteur, le pasteur prêche bien, ils ont un bon moment, parce que pour que l'entretien dure jusqu'à minuit, c'est que la prédication devait être intéressante, j'imagine que les gens devaient réagir, poser des questions, parce qu'une prédication de 4 heures, ça doit... Je pense, c'est pas écrit, mais on peut imaginer qu'il y avait quelques interactions quand même, peut-être pas, hein. Mais en tous les cas, il y avait de la vie. Ça, c'est sûr, pour que Paul reste au moins jusqu'à minuit, il y avait du besoin et l'apôtre Paul était là pour répondre à ce besoin. C'est une église qui avait soif de grandir, d'aller de l'avant, de faire des progrès et l'apôtre Paul était là pour ça. Et ce jeune est là au milieu de cette église, je dirais en bonne santé, mais lui, il est sur le rebord de la fenêtre. Donc de toutes ces lampes, on peut en déduire tout ça, mais... De ces mêmes lampes, on peut y voir aussi l'occasion de chute pour ce jeune homme. La lumière tamisée, les bonnes odeurs, la chaleur qui se fait. Elle lui avait peut-être trouvé sa petite position. Les paroles de Paul qui devenaient mécaniques dans sa tête et puis qui finalement n'écoutait pas, mais ces paroles qui résonnaient dans sa tête, qui se faisaient de plus en plus loin et puis pouf! Voilà Eutychus qui s'endort. Une ambiance qui a favorisé son endormissement, entre guillemets. Une atmosphère qui aurait favorisé son endormissement. De tout. Moi, ce que j'en dis là ce soir, c'est que finalement, un chrétien peut s'endormir quelle que soit l'église où il est. L'église peut être saine. La parole peut être la parole. Le pasteur peut être très bien. Les frères et sœurs peuvent être très bien. L'église peut être très bien, mais mine de rien... On peut toujours nous endormir. On peut être cet Eutychus qui s'assoit au bord et qui va s'endormir. Pourtant, s'asseoir au bord d'une fenêtre n'est pas non plus le plus confortable. Et pourtant, il va s'endormir. Et il va s'endormir, bien sûr, dans une position assez instable. Cet Eutychus, il me fait penser à tous ceux qui vivent au bord, qui ont un pied dans l'église. Un pied en dehors. Ceux qui ont un pied en dehors et un pied dans l'église, c'est ceux qui aiment finalement se rassembler dans ce lieu, qui aiment se rassembler dans l'église, quel que soit, pas que ici à Saint-Agne, mais ceux qui aiment bien la présence des frères et des sœurs, qui aiment bien entendre le message de la parole, de l'évangile, qui écoutent, mais qui ne font qu'écouter et qui ne mettent pas en pratique la parole. Des personnes qui suivent de loin. Des personnes qui veulent persister dans leur péché, parce que, quelque part, la parole qui est annoncée, si elle est annoncée telle qu'elle, elle va inciter les gens à se repentir, à s'approcher de Dieu. La parole que nous prêchons est une parole qui annonce le salut, annonce l'amour de Dieu, mais annonce aussi la justice de Dieu, annonce qu'un jour, il faudra rendre compte à Dieu pour ses péchés. Donc quelque part, quelqu'un qui continue à vivre dans cette situation clopin-clopin, je dirais, c'est quelqu'un qui, quelque part, s'oppose à l'enseignement qu'il reçoit parce qu'il veut continuer à profiter de la jouissance du péché. Il veut continuer à profiter de la jouissance de ces pratiques qu'il sait mauvaises en plus, de par les messages qu'il entend. J'aimerais qu'on lise un texte ensemble dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, qui nous décrit cette attitude, et l'apôtre Jacques est très très clair sur sa demande, sur son exhortation. Il invite ses lecteurs, ses auditeurs, à faire attention. Verset 22. Jacques 1er, 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. L'apôtre Jacques nous montre bien toute l'utilité, non seulement d'écouter, de recevoir la parole, mais de la mettre en pratique. Et ici, nous avons l'exemple parfait de la personne qui reçoit l'enseignement, de la personne qui est là au bon endroit, mais qui a une mauvaise attitude de cœur. Une personne qui est assise sur le rebord de la fenêtre. Je ne sais pas ce soir dans quel état tu es. Je ne sais pas dire si oui ou non, quelle est ta vie en dehors de l'Église. On se voit ici, on se côtoie ici, c'est très bien. Vous écoutez les messages comme tous les autres. Peut-être même vous êtes déjà vous levé à des appels. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se lever à un appel? Des fois, on peut se poser la question. Ma question ce soir, c'est celle-ci. Quelle est ta vie en dehors de l'Église? Est-ce que tu mènes une vie pour te prélasser dans la jouissance du mal et te donner bonne conscience en venant à l'Église? Si c'est ça, alors tu fais fausse route. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas d'écouter la parole qui fera de toi un chrétien. Ce n'est pas d'écouter la parole qui fera de toi quelqu'un de sauvé. Mais c'est celui qui l'aura reçu, mais qui la mettra en pratique. Autrement dit, quand la parole dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », il est parlé pas simplement de croire au sens de recevoir, mais de croire au sens d'obéir. Et il te faut te repentir, il te faut considérer ta vie, il te faut devant Dieu réaliser que si tu continues à vivre cette vie sans te soucier de Dieu, en te régalant de continuer à faire le mal, alors ta destinée est prévue et un jour tu devras rendre compte à Dieu de ton comportement. Cette histoire nous parle d'une chute. Et j'aimerais te dire que persister dans cette manière de faire ne pourra que t'amener à la chute. Et si cette histoire est dans la parole, c'est pour notre instruction. Si cette histoire est dans la parole, c'est pour qu'on puisse comprendre que cette attitude d'être assis au bord, de ne pas être à l'intérieur, de ne pas faire partie vraiment de ceux qui sont rachetés, et qui aime le Seigneur, et qui aime pratiquer ce qui plaît à Dieu, alors tu pourras connaître la chute. C'est une éventualité. Et la Bible te prévient. À travers ce passage, tu es prévenu. On voit que la chute, elle arrive quand te vient minuit. Minuit, c'est fort de symboles. C'est le moment où, à minuit, on se retrouve... La symbolique de minuit, c'est les ténèbres, c'est la nuit bien obscure, c'est le moment fatidique où le diable pourra justement te faire tomber. C'est le moment précis où tu ne seras plus que assis au bord, tu te seras endormi. Le péché dans lequel tu te vautres peut-être aura eu raison de toi et tu seras tombé. C'est le moment où le diable va pouvoir te saisir. C'est le moment où le mal pourra te prendre. Alors que Dieu voudrait tellement que t'éviter cette chute, alors que Dieu voudrait tellement t'éviter de vivre des choses difficiles, il voudrait t'épargner des situations compliquées, de continuer dans cette voie ferait qu'à un moment donné tu vas t'endormir, tu ne pourras plus entendre, ton cœur sera endurci. Tu pourras beau entendre des messages, des prédications, tu n'entendras plus, parce que quand on dort, on n'entend plus. Quand on dort, on ne ressent plus rien. Quand on dort, on est dans une léthargie totale et la chute est facile. Parce qu'on est justement endormi, tout se relâche, on se laisse aller et on tombe. Cette histoire ne se termine heureusement pas là. On a la réaction d'un homme qui a chuté, d'un jeune homme qui a chuté, qui était au bord. Et j'aimerais qu'on regarde un peu l'attitude de Paul. La première attitude de Paul, elle est, somme toute, très logique. Que va faire Paul ? Il va vite descendre. Il va aller le voir. Le texte nous dit qu'il se penche vers lui. Il le prend dans ses bras. Et l'apôtre Paul rassure tout le monde quant à son état de santé. Quant à une chose précise. Son âme est toujours en lui. Autrement dit, il n'est pas mort. Il va pas bien peut-être, mais il n'est pas mort. C'est tout ce que dit Paul. Hein ? Son âme est en lui. Il est vivant. Ou alors il était mort, mais il est revenu à la vie. Et là, on y voit justement le premier pas que Dieu fait. Si toi, tu as chuté, si tu es venu ce soir parce que tu as chuté, parce que tu t'es laissé prendre au mal, et alors tu t'es ressaisi peut-être, et tu es là ce soir parce que tu voudrais recevoir une parole de Dieu, sache que Dieu veut faire la même chose que Paul a fait à l'égard de ce jeune homme. Il veut te prendre dans ses bras. Et par ses bras puissants, par ses bras d'amour, il veut te redonner la vie. Peut-être que ce soir tu te sens mort. Tu te sens complètement détruit. Parce que tu te sens vaincu par le mal qui te ronge. Sache que Dieu a fait le premier pas. Dieu a fait le premier pas. Et encore ce soir, il fait le premier pas. Et il veut t'entourer de ses bras d'amour pour te redonner la vie. Il veut que tu sois bel et bien vivant. Il veut que tu puisses être auprès de lui pour l'éternité. Et si tu es dans cet état ce soir, sache que Dieu veut que tu puisses te relever. L'apôtre Paul donne une parole pour que les autres ne s'inquiètent pas, mais par la suite, il y a de quoi être surpris par l'attitude de Paul. Ensuite, une fois qu'il a donné cette parole de consolation, on voit un apôtre Paul qui laisse le jeune homme où il est et qui remonte. Alors là, ça fait réfléchir quand même, parce qu'on se dit, mais l'apôtre Paul, il n'a pas de cœur. Il ne reste pas autour, il le laisse au sol comme ça, et non seulement il remonte, mais en plus, il invite les autres à le suivre. Parce que nous est-il dit ? Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain. Rompre le pain, vous savez ce que c'est ? C'était justement la raison pour laquelle il s'était rassemblé. Rompre le pain, c'est prendre la scène. C'est participer au repas du Seigneur. Donc ils ont pris la scène juste après. Ils ont pris le repas du Seigneur juste après. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'apôtre Paul donne une parole pour rassurer tout le monde, comme quoi il est bel et bien vivant. Et juste après, il remonte et il rompt le pain. Il se dit, c'est le moment de prendre la scène. La scène, c'est le moment où on se rappelle qu'il y en a un qui est mort pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, c'est Jésus-Christ. La scène, c'est ce que nous partageons pour nous rappeler que Jésus-Christ a souffert, pour que nous puissions être sauvés. La scène, c'est ce moment que nous partageons où nous nous rappelons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est le moment où Jésus a pris notre condamnation. C'est aussi le moment par lequel on peut comprendre que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il prouve son amour en ce que, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc alors que je suis pécheur, alors que je suis encore au bord, alors que je suis tombé, l'amour de Dieu est encore là. Et l'apôtre Paul veut recentrer les personnes, parce que l'apôtre Paul, sa réaction, c'est pas une réaction où il délaisse le jeune homme. C'est une réaction où il est dans la foi. C'est une réaction de foi. L'apôtre Paul, il sait que ce jeune homme, c'est bon, il est sauvé. Donc il passe à autre chose et il invite les personnes autour de lui à se recentrer sur quelque chose de plus essentiel, Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire ce soir que si l'apôtre Paul ainsi veut recentrer les choses sur l'œuvre de Jésus-Christ, c'est parce que oui, tu peux avoir une délivrance sur peut-être ce qui t'enchaîne, les choses qui sont là dans ta vie, qui te lient, mais il y a plus que ça. Dieu veut te libérer du péché. Dieu veut te libérer de quelque chose qui va te lier jusqu'à une mort éternelle. Et ça, il n'y a que le sacrifice de Jésus qui permet de le faire. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut éviter une chute éternelle. Une chute où tu seras définitivement hors course. Tu seras définitivement loin de Dieu, séparé de tout, dans les ténèbres, dans les souffrances, dans les regrets, dans l'amertume. Ce sont des choses que Dieu aimerait tellement t'éviter, et il t'appelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul va rompre le pain. La scène que l'apôtre Paul partage est aussi un message qui dit que si Jésus est mort pour toi, c'est parce qu'il était capable de te pardonner tous tes péchés. Par son sang, tu as le pardon, tu es couvert. Par son sang, si tu crois dans son œuvre à la croix, alors tu peux être pardonné. Alors tu peux saisir la délivrance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recentre le débat là-dessus. Mais il ne s'arrête pas là. Il partage la scène et ensuite il mange. Là, on y voit encore une invitation à se réjouir. Une invitation à se réjouir. Il y a toujours ce jeune homme qui est au sol et l'apôtre Paul invite à se réjouir. L'apôtre Paul est dans la victoire. Peut-être que ce soir, tu vas réaliser ces choses. Peut-être que ce soir, tu vas crier à Dieu, tu vas demander pardon pour tes péchés, tu vas te repentir. Et par rapport à ce qui t'enchaîne, tu vas demander la délivrance. Eh bien, je t'invite à faire comme l'apôtre Paul. À partir dans la victoire, à savoir... Es-tu lié par le tabac? Alors, délaisse ton péché et pars dans l'assurance que tu es délivré. Ça va revenir à une attitude toute simple. C'est que tu vas pouvoir considérer ton nouveau départ. Tu vas pouvoir considérer que tu es quelqu'un de sauvé parce que tu auras saisi la grâce de Dieu. Mais aussi, dans le péché qui te lie, tu vas pouvoir vérifier que la chaîne est brisée. Et de tout ton cœur, tu vas pouvoir jeter ces paquets de cigarettes ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce qui te lie, tu vas pouvoir t'en séparer. L'apôtre Paul sait que sa prière a été entendue par Dieu. Et celui qui demande pardon à Dieu, celui qui vient à Dieu, le cœur repentant, le cœur brisé, il peut avoir cette assurance que Dieu entend la prière. Et ce soir, si tu es dans cette attitude... Tu vas pouvoir repartir de ce lieu avec cette assurance que Dieu t'aura entendu. Et tu pourras commencer à te réjouir parce que tu auras été changé par Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, dit la parole. Alors, par rapport à ton péché, examine-toi devant Dieu. Et fais le point avec Dieu, parce qu'il lui cherche à te... Il voudrait te délivrer, il voudrait te donner cette paix peut-être que tu n'as jamais connue. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu es toujours à courir à droite à gauche. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que finalement tu cherches une solution dans le mal que tu pratiques, parce que tu n'as pas la paix. Le Seigneur Jésus veut te donner la paix. Et il y a un chemin, c'est la croix. La croix où Jésus est mort. Par la croix, tu peux obtenir la paix de Dieu. tu peux obtenir la grâce de Dieu. Il te faudra la saisir. Ensuite, on voit que Luc nous dit que l'apôtre Paul, ensuite, a repris sa réunion, finalement, et il a parlé jusqu'à l'aube. Ça paraît encore plus choquant quand on imagine le pauvre jeune homme qui est toujours dehors, couché au sol. Et que finalement, on pourrait se dire, mais il a complètement oublié ce jeune, l'apôtre Paul. Non. Mais il sait que ce jeune, il est en train de revenir à lui, peut-être. Et j'aimerais qu'on imagine un peu ce qui a pu se passer du côté de ce jeune homme. Pour ce soir, peut-être, t'amener aussi à réfléchir. Imaginons cet homme à son réveil. Il va se réveiller, il aura peut-être quelques douleurs, mais il se réveille. Il aura peut-être oublié ce qui s'est passé. La seule chose qui va se rappeler, c'est qu'il était au bord d'une fenêtre et qu'il s'est endormi. Il va se rappeler un peu l'atmosphère dans laquelle il s'est endormi. Il y avait les lampes, il y avait la chaleur, il y avait les paroles de quelqu'un qui parlait. Et là, d'un seul coup, il se réveille, il fait nuit, il a un peu froid, et il entend toujours quelqu'un qui parle. Évidemment, l'apôtre Paul, entre-temps, il a repris. Il entend toujours Paul, et puis là, il dit, mais qu'est-ce que je fais là, dans cet état-là? Il y a de quoi réfléchir. Alors qu'il était au bord, là maintenant il est dehors. Et le temps qu'il va reprendre ses esprits, il va continuer à réfléchir. Et le texte nous parle que finalement, le texte revient sur ce jeune homme une fois que Paul est parti. Imaginons juste ce jeune homme, je ne sais pas comment il est remonté, est-ce qu'il est remonté, on ne sait pas. Imaginons ce jeune homme qui va demander ce qui s'est passé. Et puis, ben, entre-temps, on a partagé le repas du Seigneur, on a mangé. Ensuite, l'apôtre Paul a repris le cours de son message. Et là, ça m'a fait réfléchir, cette affaire, parce que quand il va remonter, l'apôtre Paul sera même parti, sans même s'inquiéter de son état de santé. Moi, ça me fait réfléchir. Soit Dieu a voulu nous montrer que Paul n'avait pas de cœur, ou soit il y a autre chose. Je crois que dans cette histoire, peut-être que vous le discernez déjà un peu plus ou moins, c'est que l'apôtre Paul, c'est une image de ce qu'est Dieu pour nous. Eutychus, il était sur le bord de la fenêtre. Il marchait avec un pied dans l'église, un pied en dehors. Et il est tombé. Son attitude a fait qu'il s'est endormi, et son endormissement sur ce lieu-là, de la fenêtre, a fait qu'il est tombé et il s'est retrouvé en dehors de l'église, en dehors de la sécurité, en dehors de la communion avec les frères et les sœurs. Il s'est retrouvé comme exclu. Eutychus n'a pas pris part à la scène. La scène, c'est ceux qui la prennent, c'est ceux qui ont été pardonnés. Et lui, il aurait pu se dire, ben, j'ai pas pu y participer. C'est l'image de celui qui n'a pas été pardonné. Eutychus n'a pas pu se réjouir avec les frères et ses amis en cette soirée-là, en compagnon de l'apôtre Paul. Ton péché volontaire, il finira par t'isoler des frères et des sœurs. Un jour, tu te sentiras tellement mal à l'aise à cause de ton péché que tu sentiras toi-même qu'il faut prendre de la distance. Tu vas t'isoler, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Les frères et les sœurs, c'est aussi une sécurité. Parce que c'est là où Dieu nous donne sa bénédiction, c'est là où Dieu veut nous faire du bien, dans la communion fraternelle. Il n'a pas pu se réjouir. Et là, c'est l'image peut-être aussi de celui qui ne pourra pas se réjouir un jour, dans le ciel, avec ses frères et sœurs. Parce qu'il n'aura pas été pardonné. Et le pire, c'est que Eutychus n'a pas pu revoir Paul. Celui qui persiste dans son péché, qui va ainsi se retrouver en dehors de l'Église de Jésus-Christ. Là, je ne parle pas de l'Église de Sainte-Agne, je parle de l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont été pardonnés et qui désirent consacrer leur vie à suivre Dieu. Ceux qui désirent consacrer leur vie à être agréables à Dieu. Voilà l'Église dont je parle. Alors, celui qui persiste dans ce péché, il se retrouvera en dehors de cette église-là et il ne pourra pas voir Dieu. Parce que son péché le séparera à tout jamais de Dieu. Voilà l'image à laquelle, moi, ce récit me fait penser. On ne pense pas souvent à ce versant de cette histoire. Mais ne croyez-vous pas que l'apôtre Paul a bien fait d'agir ainsi? Parce qu'il y a quelque chose dont je suis persuadé dans cette histoire. C'est que Tychicus, quand il s'est retrouvé ainsi dehors, dans le froid, en train d'entendre, je me demande s'il n'a pas pu se poser ces mêmes questions. Et qui sait même si l'attitude de Paul n'a pas été salutaire pour ce jeune homme. Parce que s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il serait remonté et il serait retourné se rasseoir au bord de la fenêtre. À quoi ça aurait servi? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. L'apôtre Paul était soucieux de ce que ce jeune homme comprenne quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne s'est, entre guillemets, pas occupé de lui. Et il y a peut-être des fois dans ta vie, tu te dis, mais Dieu ne s'occupe pas de moi. Tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait Dieu dans ta vie? Il te laisse dans tes galères, il te laisse dans tes situations compliquées. Mais il voudrait peut-être que tu réalises que ces situations compliquées que tu traverses vont empirer si tu continues à rester dans ton péché. Et il te le dit, je le dis, moi, peut-être mal. Parce que sois assuré que ce n'est pas le désir de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas le désir de Dieu pour toi. Ce que Dieu désire pour toi, c'est que tu puisses être auprès de ceux qui seront sauvés par grâce comme toi. De ceux qui seront ta nouvelle famille, tes frères et sœurs en Christ. Que tu puisses être là où il fait chaud, là où il y a la lumière, là où il y a la parole qui est annoncée. Parce que c'est là que tu pourras saisir la bénédiction, l'amour de Dieu, la paix que Dieu veut te donner, peut-être que tu recherches depuis tellement de temps, que tu ne trouves pas à travers les péchés que tu pratiques, à travers le mal que tu fais jour après jour, les saletés que tu regardes, j'en sais rien. Mais ce sont des choses qui ne t'apportent pas la paix, loin de là. Le Seigneur voudrait te proposer, encore ce soir, de venir à lui et de lui demander sa grâce. Seulement, comme je l'ai lu, c'est pour ça que j'ai lu ce verset. Il te faut te repentir, demander pardon au Seigneur pour tes péchés, parce que cette histoire, on voit quand même l'amour de Dieu, on voit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tout ce que Jésus a fait pour que tu puisses être pardonné. Tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que Jésus a payé. Il a été la rançon. Le péché a été vaincu à la croix du calvaire. Tu peux t'approcher de Dieu en toute assurance si dans ton cœur il y a cette prière honnête, sincère devant Dieu, cette prière qui vient du cœur et qui demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Cette prière-là, Dieu va l'exaucer. Et l'exaucement de cette prière sera la nouvelle naissance. Tu feras l'expérience illuminé par le Saint-Esprit. Tu feras cette expérience de se sentir heureux, la joie d'être pardonné, comme David l'écrit. Heureux celui dont la faute a été pardonnée. Tu connaîtras une joie que tu n'as pas connue. Tu connaîtras aussi une paix que tu n'as pas connue. Ce que tu cherchais depuis si longtemps, que tu n'as jamais trouvé. Seulement, il te faut aussi prendre une décision. C'est pas le tout de demander pardon à Dieu. C'est pas le tout de s'approcher sur le devant. On va prendre un chant et pendant ce chant, j'aimerais te proposer de t'approcher sur le devant. Et la prière que tu vas faire monter vers Dieu, je m'associerai avec toi. Et je prierai avec toi pour que le Seigneur t'aide à prendre cette décision qui va changer ta vie. Parce que la délivrance ne s'obtiendra que si tu prends cette décision de délaisser le péché qui te fait tomber, le péché qui va t'endormir, le péché qui va te faire chuter et qui t'éloignera de Dieu pour toujours. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu t'aime et il désire t'entourer de ses bras d'amour. Et ce message est encore la preuve de son amour, parce qu'il t'appelle. Il t'appelle.